Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Après un premier roman intitulé « Comme deux sœurs » paru en français aux éditions de l'Antilope en 2016, c'était même le tout premier titre du catalogue de cette jeune maison d'édition dont l'un des fondateurs, Gilles Rosier, avait aussi traduit ce texte de l'hébreu. Voici « L'ours qui cache la forêt », le deuxième roman de l'auteur israélienne que nous recevons aujourd'hui, Rachel Chalita. Bonjour.
Bonjour.
Et après Tel Aviv, où vous vivez et qui était le cadre de votre première fiction, nous voici avec vous aux États-Unis, à la rencontre de six femmes américaines ou israéliennes qui se connaissent ou pas, qui sont de générations différentes, grand-mère, mère, fille, veuve, célibataire, séparée, et dont les histoires se croisent dans le Massachusetts, dont les existences sont traversées aussi par des thématiques communes. Par exemple, le lien à la mère patrie, la relation enfant-parent, la folie, voire la nature et les animaux, avec une scène récurrente où elles se perdent en forêt. Un roman qui se lit un peu comme un puzzle, où chaque femme, chaque personnage cherche sa place dans ce vaste monde. Quelle est l'idée à l'origine de ce roman, Rachel Chalita ?
Je vais souvent à Nouvelle-Angleterre. Il y a ma sœur là-bas qui habite là-bas.
Aux États-Unis,
donc. Aux États-Unis. Et je rencontre des gens de la famille, des femmes. Et j'ai commencé à regarder ce qui se passe avec les femmes qui sont israéliennes et américaines. Et ça change dans les années, ça change tout le temps, ça évolue. Et ça m'intéressait beaucoup. Alors j'ai commencé ce roman. Il y a quatre personnages. Ce sont des vrais personnages que je connais. Mais c'était à partir de... C'est pas du tout leur histoire, mais ce qui m'a frappé là-bas, c'était la forêt. Et je ne sais pas si ça marche comme ça en France, mais là-bas, c'est une grande forêt, immense forêt, où on coupe les arbres pour construire des villes, des petites villes. Les villes sont situées dans le cœur de la forêt. Et pour moi, c'est tellement important, ça a été très impressionnant. Parce qu'en Israël, on voit très peu la forêt. Et puis aussi le danger, un peu, parce que ça arrive à Massachusetts qu'il y a un ours qui croise les chemins. Alors, c'est un peu ça.
Donc, c'est à la fois le contexte géographique, la forêt, où on est à la fois isolé, mais on peut vivre aussi ensemble, le contexte américain de cette diaspora israélienne, les femmes, évidemment, parce que c'est un roman, même si on croise des hommes, mais c'est un roman assez féministe. C'est cet ensemble de choses qui vous a donné envie, Rachel Chalita, d'aller sur ce continent qui n'est pas le vôtre.
Oui, et aussi parce qu'il y a cette forêt où on se peut perdre. Ça m'intéressait de voir des personnages différents, dans le même temps, se perdre dans la même forêt. Et comme ça, c'est construit comme six chapitres différents et presque isolés, mais ils sont complètement liés. Et parce que c'est comme si je regarde du haut la forêt, et puis je vois les femmes qui se perdent dedans, et chacune est un personnage principal, il n'y a pas de personnage secondaire. Chacune m'intéresse. Et aussi la simultanéité des choses qui arrivent. C'est très, très difficile à écrire simultanément. Mais ça m'intéressait d'essayer d'écrire quelque chose qui se déroule simultanément.
C'est vrai que le roman est construit un peu comme une ronde, puisque les unes après les autres, ces six femmes vont prendre la parole pour nous raconter une partie de leur histoire. Et c'est même une boucle, puisque le récit s'ouvre sur la rencontre entre Nancy et Zoé, une scène où la deuxième vient louer une chambre dans la maison de la première. Elles ne se connaissent pas, elles ne savent pas qu'elles ont en commun un proche, mais peu importe, nous, lecteurs, on va le découvrir un peu plus tard. Et à partir de là, Nancy raconte son parcours, et 200 pages plus tard, le roman se boucle avec l'histoire de Zoé. Et donc, on traverse...
Qui vient louer la chambre.
Qui vient louer la chambre, c'est ce que je disais. Et donc, on traverse cette histoire comme on traverse un peu une forêt. Et du coup, on se demande aussi quel est selon vous leur point de vue, si ce n'est que on a l'impression qu'elles sont toutes à un moment clé de leur existence. Une fracture familiale, une fracture amoureuse, un deuil, des retrouvailles, le passage aussi peut-être dans la folie. Est-ce que c'est ça aussi le premier lien qui les rassemble?
Oui, ça aussi. Mais ce qui m'intéresse, ce sont des traumas qui sont de la vie quotidienne, que ce n'est pas un trauma grand ou extraordinaire ou et hors de la vie qu'on vit tous les jours. Et si on prend un kayak pour aller dans la rivière, c'est quelque chose de tous les jours. C'est pas une guerre, c'est pas quelque chose de...
Oui, oui, je vois. Et d'ailleurs, je précise pour les auditeurs, si vous parlez de kayak, c'est en effet lors d'une sortie en kayak que finalement une famille va se disloquer et que un couple va arriver au terme de son histoire, alors qu'au début c'était juste une balade
du
dimanche.
C'est ça.
On va rentrer un peu peut-être dans le détail. Donc Nancy et cette femme dont on fait la connaissance au début, qui est thérapeute, et effectivement on apprend au fur et à mesure que son mari est retourné en Israël, certainement après cette scène du kayak où ils se sont embourbés. C'est aussi une métaphore du couple qui prend l'eau. Ensuite, on entendra Daffy, qui est la fille de Nancy.
De Nancy.
Et qui est allée rendre visite à son père en Israël. Et qui a un choc quand elle revient dans la maison parce que le bureau de son père a été loué à un inconnu et elle ne supporte pas ça. Donc elle doit être malheureusement internée dans un hôpital psychiatrique. Ruth, dont le mari meurt, et c'est une des scènes centrales aussi, les funérailles donc où se rend Nancy, par exemple. Millie, ça c'est une femme qui a eu très très peur parce que son fils Tom a failli se noyer, et ça c'est un traumatisme qui continue de la hanter. Et puis on a encore Aya, qui elle représente vraiment Israël puisqu'elle y vit. Et après des années de séparation avec son frère aîné, elle décide de prendre l'avion, de venir à Boston pour retrouver son frère.
Son frère.
Et enfin, Zoé, donc cette jeune femme qui est la fille de Larry. Larry qui sera l'amant de Nancy. Donc tout ça est mêlé sans que les personnages ne le sachent forcément. Qu'est-ce qui vous intéresse aussi, vous Rachel Chalita, dans ces Israéliens qui sont exilés?
Voilà, ça m'intéressait beaucoup. On se demande toujours en Israël, qu'est-ce que ça veut dire être israélien? Oh, qu'est-ce que ça veut dire écrire de la littérature israélienne? Est-ce que ça veut dire écrire en hébreu sur les personnages qui vivent en Israël? Est-ce que ça a à voir avec... Et ce qui m'intéressait de voir cette question en dehors d'Israël, voir comment ça se manifeste loin d'Israël, dans un décor complètement étranger. Et comment ils vivent là-bas, comment ils sont encore israéliens. Quand Ruth entend l'accent d'un étranger qu'elle raconte, elle voit que c'est un israélien. Elle se sent comme si elle est déjà, si elle est rentrée chez elle, qu'elle compte sur un israélien. Alors, comment les israéliens aussi s'identifient l'un l'autre dans la forêt des étrangers américains, et ça aussi, c'est une question qui m'a intéressée. Et quels sont les liens entre eux? Et puis, il y a aussi ce côté qui est intéressant, c'est quand les Israéliens, je sais pas, d'après ce que j'ai vu, les Israéliens deviennent plus en plus juifs qu'Israéliens aux États-Unis. Il y a la synagogue, ils vont à la synagogue, les funérailles se déroule dans la synagogue. Ils sont israéliens, ils sont pas israéliens, ils rêvent de l'Israël et tout ça. Et à l'époque, c'était très difficile de partir, de quitter l'État d'Israël. On avait toujours la sensation de culpabilité. Il faut pas aller, il faut pas quitter, il faut rester là-bas, lutter, et même si c'est difficile à vivre et tout ça. Et tous ces personnages et les Israéliens ont quelque chose avec l'Israël, toujours avec l'Israël, même s'ils savent qu'ils jamais ils retourneront, ils retournent pas en Israël, ils vivent là-bas. Mais ils disent toujours, comme on dit à la Agada de Pessah, à l'année prochaine à Jérusalem, et comme s'il y a un espoir de rentrer. Mais ils ne rentrent pas, normalement.
Il y a quand même des allers-retours.
Oui, il y a Larry qui est américain, qui a passé 30 ans en Israël et a retourné aux États-Unis. Il y a Guidi, l'Israélien qui a retourné en Israël, oui, oui, c'est. Et il y a Daffy qui va aller-retour et voir son papa. Alors, c'est un peu ça, oui.
Il y a quand même beaucoup d'aller-retour. Alors, c'est très intéressant ce que vous disiez, Rachel Chalita, sur le fait que les Israéliens exilés aux États-Unis deviennent peut-être plus juifs que les juifs d'Israël, parce que en même temps, moi, j'ai été très frappée par, à part la synagogue. Vous ne montrez jamais ces personnages dans la pratique de leur religion.
Non, ils ne deviennent pas pratiquants ou religieux, mais ils se sentent plus juifs qu'avant. Et je pense que la définition, parce que la synagogue aux États-Unis, c'est un centre culturel où les enfants apprennent l'hébreu et ils font le bar mitzvah et tout ça. Alors ça devient centre culturel aussi des Israéliens. Et pour faire partie de la synagogue et de la communauté, ils deviennent un peu plus juifs avec les fêtes et les bar mitzvah et tout ça. Peut-être des choses qu'ils font pas en Israël, mais ils font aux États-Unis.
Et en même temps, Nancy, par exemple, je me suis vraiment demandé si elle était vraiment de confession juive, parce que d'abord, elle a un discours un peu dur envers son mari, qui en effet donc va retourner vivre en Israël. Et voici ce qu'elle lui dit. « Je ne veux plus, je ne peux plus, ça ne s'arrangera jamais, nous sommes trop différents. Tu ne seras jamais américain, tu resteras toujours israélien et je n'aime pas les Israéliens. » C'est très étonnant d'entendre ça de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que pour elle, elle est venue en Israël. Elle était des temps très courts en Israël comme volontaire dans un kibbutz. Et je pense qu'elle aime pas les hommes israéliens. Elle fait une espèce de généralisation, mais et ce sont des hommes qui étaient à l'armée, qui sont très arrogant, d'après ce qu'elle dit. Ils savent tout et tout cet incident dans la rivière, c'était parce qu'il était arrogant, il a pas écouté, il connaît pas et le paysage, il connaît pas le temps. Et je pense que, je ne sais pas, à vrai dire, je ne sais pas si elle est juive ou pas. Je ne me suis pas demandé. Et peut-être qu'elle est juive, mais ce n'est pas évident. Parce qu'elle est très, très américaine.
Oui,
très américaine.
C'est sans doute la plus américaine de tous les personnages.
Oui, elle est née aux États-Unis, elle parle anglais, mais elle connaît très bien les Israéliens parce qu'elle est toujours dans le groupe des Israéliens là-bas, qui continuent des Eudes, des routes, etc.
Et elle parle l'hébreu, évidemment.
Elle parle l'hébreu, oui, avec l'accent américain. C'est marrant que je peux vraiment entendre sa voix, mais je ne sais pas si elle est juive ou pas. Je la connais très bien, Nancy, mais je ne sais pas si elle est... Je ne me suis pas posé la question.
Et c'est parce que moi, je me pose la question que d'un seul coup, vous vous posez la question aussi. C'est drôle, ça.
Oui, c'est drôle. I got a dream in my head, just waiting for the day, just waiting for born. I got a seed in my hand, just looking for a way, just looking for a way to grow strong.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine israélienne Rachel Shalita, avec qui nous parlons de ce deuxième roman intitulé « L'ours qui cache la forêt ». Traduit de l'hébreu aux éditions de l'Antilope, le portrait de six femmes, on l'a dit, aux États-Unis, qui ont tout un lien avec Israël et qui se retrouvent donc à un moment de leur existence en proie au doute. Et d'ailleurs, à un moment ou à un autre, elles se perdent. Alors, l'une a peur de se perdre dans un aéroport, d'autres se trompent de chemin en voiture, d'autres encore s'enfoncent dans la forêt, comme dans un conte. Elles s'égarent et elles sont là face à une nature qui soit peut les aider à se ressourcer, soit se laisser glisser vers la mort. Et donc cette nature très présente dans le titre déjà, l'ours qui cache la forêt. Que faut-il entendre par cette expression, Rachel Shalita ?
Cette introduction que Gilles, c'est l'invention de Gilles.
Gilles
génial,
Rosier, donc
très,
votre
très bien.
Traducteur et éditeur français.
Oui. Et le titre en hébreu, c'est Ours et forêt. Et ça vient d'une expression qui dit ni ours ni forêt en hébreu. Ça veut dire, et ça n'a pas existé. Il y a pas quelque chose comme ça. Et Gilles a essayé de trouver quelque chose de parallèle en français.
Mais qu'est-ce que vous vouliez dire, vous, avec cette expression « ni ours, ni forêt » ?«
Ni ours, forêt ». Moi, je dis pas « ni ours, ni forêt », je dis « ours, forêt ». Ça existait. Ça existait dans la forêt. Et l'ours qui un peu, pour moi, symbolise un peu le danger, quelque chose qui est inconnu, et etc. Il y a des ours et vous pouvez rencontrer un ours comme ça et en roulant et tout simplement dans une forêt. Dans une forêt aux États-Unis, il y a en Massachusetts, il y a des ours.
Mais l'allégorie, ça veut dire que le danger peut surgir à n'importe quel moment dans notre vie.
Oui. Et ça donne aussi cette sensation d'être étrangère, de ne pas connaître, de quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir, des choses comme ça. Oui, un peu ça.
C'est un roman qui questionne aussi beaucoup les relations parents-enfants, dont on a l'impression, à vous lire, que ce sont rarement des liens apaisés. Est-ce que ça veut dire, Rachel Shalita, que de votre point de vue, c'est la nature humaine que les mères, les pères, leurs filles et leurs fils ne réussissent pas à se comprendre ?
Je ne sais pas s'ils n'arrivent pas à se comprendre, mais ils ratent des opportunités, je pense. Que c'est plutôt ça. D'abord, les parents ne peuvent pas savoir quel va être le moment très important que leurs enfants vont interpréter comme un événement très très important de leur vie. Assez souvent, le parent ne fait pas attention à ce qui se passe et il voit quelque chose qui est vraiment normal dans tous les jours. Et puis après, on entend les enfants, ils racontent cette histoire complètement différente. On ne sait pas, et je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si ça a quelque chose à faire, mais j'ai un ami qui m'a raconté que ses parents avaient un ami qui s'appelait Dove. Dove, ça veut dire ours. Ça vient justement ça. Et quand il est venu le voir, mon ami avait 3 ou 4 ans, il disait, oui, Dove, venez, venez, venez. Et pour lui, c'était ours, venez, venez, venez. Il se cachait sous le lit, et il était traumatisé. Alors c'est quelque chose de simple. Il y a quelqu'un qui arrive à la maison, et il y a quelqu'un qui est traumatisé par ça. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qu'on fait et comment les enfants ils vont interpréter ça.
On ne vit pas dans les mêmes réalités, presque.
Je pense, oui, que c'est très difficile de comprendre la réalité de ces enfants. Et c'est très, très difficile.
D'où la question du non-dit et des silences. C'est aussi, dans ce roman, ce qui fracture les relations, parce que les gens ne se parlent pas.
Oui.
Par exemple, un fait extraordinaire. Quand le père de Daffy refait sa vie à une nouvelle femme et un autre enfant, personne ne la prévient, ni sa mère, ni son père. Et Daffy, quand elle débarque en Israël, elle est confrontée à une réalité dont personne ne lui a parlé. Oui. Donc encore une fois, les non-dits et les silences nuisent énormément.
Oui.
Donc, L'ours qui cache la forêt est vraiment un roman sur la question identitaire, sur l'exil ici israélien, mais l'exil en général.
C'est pas vraiment un exil, c'est comment le mot en français est expatrié, s'expatrier un peu, parce qu'ils sont pas obligés de partir et c'est volontaire.
Oui. Mais néanmoins.
Quand même, il y a cette question d'identité. Oui.
Bien et sûr. La question de la perte.
Oui.
Parce que on perd son passé, on perd une culture, on perd une géographie.
Oui.
Et
oui.
On perd peut-être aussi sa langue. Et la question de la langue, elle est très intéressante et elle est ici incarnée par le personnage de Zoé, qui est donc la plus jeune des femmes, puisqu'elle, elle a des velléités d'écrivain.
Elle écrit en anglais.
Et elle écrit en anglais. Et c'est à ce point que je voulais venir exactement, parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas être écrivain en hébreu aux États-Unis. Elle pose la question de l'intégration, qui n'est pas forcément réussie avec son époux. Voilà ce qu'elle dit. Ils sont en Amérique depuis 10 ans et ils continuent à marquer le coup pour la veille de Shabbat, le dîner du vendredi soir, ils essaient en tout cas. Ou plus précisément, ils insistent pour continuer, pour ne pas faire l'impasse sur ces dîners comme là-bas, dans leur vie d'avant, quand ils n'avaient pas encore le petit bonhomme, avant de savoir qu'ils resteraient ici si longtemps. Et voilà qu'elle met en danger ce qu'elle a construit ici. Mais qu'a-t-elle construit ? Elle n'a pas encore la carrière qu'elle désirait, alors quoi ? Un mari qui occupe deux fonctions, mais qui ne s'est pas encore intégré, qui vit davantage ce qui se passe là-bas qu'ici, qui cherche toutes les occasions de retrouver des amis de là-bas, qui au bout de tout ce temps a travaillé avec des autochtones et à parler anglais, ne maîtrise pas encore la langue. Il est incapable de lire ce qu'elle écrit, et nous y venons donc. Je continue, je vous cite Rachel Shalita, et elle n'écrira jamais en hébreu. Qui lit l'hébreu ? Que pourrait-elle faire ici avec l'hébreu ?
Avec Zoé, il faut vraiment comprendre aussi son époux. C'est un ancien soldat qui a été blessé.
Il a le syndrome post-traumatique de la guerre.
Oui, de la
puisque
guerre.
Puisque, en effet, avec un de ses amis, ils ont...
Ça aussi, c'est quelque chose qu'on en parle très peu en Israël. Je pense qu'il y en a beaucoup en Israël qui sont traumatisés par l'armée. Mais après le service militaire, il continue, après la guerre, il continue à vivre. Et celui-là, il peut pas s'intégrer ni uniquement à la vie américaine, il n'arrive pas à s'intégrer.
Oui.
Et elle essaie de se séparer de lui. Elle veut pas, c'est trop lourd pour elle. Elle essaie de trouver son chemin, peut-être avec son prof et de littérature, on ne sait pas encore, mais elle essaie de trouver un chemin indépendant.
Et c'est pour ça qu'elle va louer une chambre à elle, comme Virginia Woolf.
Bien sûr. Et aussi, elle s'éloigne de son enfant aussi.
Oui,
elle
n'est
pas la mère traditionnelle.
On revient en relation difficile parent-enfant.
Oui.
Revenir à la question de la langue... Est-ce que c'est un échec pour vous, Rachel Shalita, que cette femme américaine, mais de culture hébraïque, ne puisse pas écrire en hébreu aux États-Unis?
Je ne sais pas si c'est un échec. Je ne pense pas qu'elle définisse ça. Vous voulez savoir si moi, je définis ça comme échec? Non, ce n'est pas un échec.
C'était ma question suivante.
Non, ce n'est pas un échec. Ça aussi, c'est une façon d'adaptation à la réalité. C'est de comprendre que la langue peut être...
Une barrière.
Et elle doit surmonter ces barrières. Elle comprend que pour être vraiment écrivaine, elle doit surmonter ces barrières.
Et donc, écrire en quelle langue?
Écrire en anglais. Elle écrit en anglais. Elle essaie de faire tout pour écrire en anglais. Et c'est pas facile pour les écrivains. Je pense que c'est le plus dur des expatriés parce que la langue, c'est très, très important. Pour les musiciens, c'est moins important, mais pour les artistes, mais pour les écrivains, c'est la langue, c'est très, très important. Et au lieu d'écrire, de continuer à écrire en hébreu et envoyer ça en Israël, publier en Israël, elle prend un autre chemin. Elle dit non, je vais écrire en anglais. Ça, c'est aussi un essai de s'adapter à la nouvelle réalité.
Et vous, si vous ne viviez pas à Tel Aviv, si vous étiez obligé de vous expatrier, vous continueriez bien d'écrire en hébreu?
Je pense que oui, maintenant, oui. J'écrirai en hébreu. Je ne peux pas écrire en français, je ne peux pas écrire en anglais.
Et encore un mot pour dire... On reste avec Zoé un instant parce que Avraham Beyeshua, grand écrivain israélien qu'on connaît bien évidemment nous aussi ici en France, et on lui conseille de le lire et elle dit non, j'apprécie pas trop ce qu'il écrit. Pourquoi?
Parce que un de ses œuvres qui s'appelle Moula Yarot, ça veut dire en face des forêts. Il y a quelqu'un qui est le gardien de la forêt et qui voit comment des incendies commencent et tout ça, et puis il fait rien. C'est une figure très passive. Et je pense qu'il faut comprendre la notion de la forêt pour les Israéliens. On n'a pas de forêt, on n'a pas de grande forêt, mais quand même. Et tout ce qu'on a fait depuis nos enfants, c'était de planter des forêts. Ça, c'était une mission sioniste pour tout le monde. On était enfants, on a ramassé de l'argent tous les vendredis, on a mis quelques sous pour planter des arbres en Israël.
Alors, c'est ce que vous faisiez, vous aussi, quand vous étiez au kibboutz, vous plantiez des arbres?
Tout le monde plantait des arbres.
Oui, donc vous aussi.
C'était comme si le pays, c'est un grand désert et il faut planter des arbres. C'est pas vrai. Le pays n'était pas un grand désert, mais quand même. Et je pense que c'est aussi une notion des juifs de l'Europe de l'Est qui venaient d'un paysage plein de forêts, des arbres et des très vert. Et même aujourd'hui, si vous allez dans le Negev, qui est le désert d'Israël, vous voyez des kibboutz, des petites villes toutes vertes. C'est quand même, on aime avoir un paysage européen plus qu'un paysage de la région, de la Méditerranée. C'est plus esthétique. Au fond, aux États-Unis, ils coupent des arbres pour avoir une ville, et en Israël, c'est le contraire. On construit une ville, et puis après, on commence à planter des arbres autour de cette ville pour donner l'impression d'avoir une vraiment végétation. Et
écrire des livres, c'est planter des arbres? Faire une forêt littéraire?
Et oui, c'est intéressant, oui. Je pense que oui. C'est une idée très intéressante, oui. C'est comme planter des forêts, mais on ne sait jamais ce que les gens vont faire dans cette forêt. Ils peuvent être là-bas pour le loisir, ils peuvent essayer de monter, et les arbres, ils peuvent se cacher derrière des arbres. Ils peuvent se perdre, bien sûr, avec les arbres. Alors, c'est un peu ça, oui.
C'est très bien de se perdre
dans un
livre.
Merci pour la métaphore.
C'est toujours très bien de se perdre dans un livre, ou de découvrir d'autres chemins grâce à un livre. Merci beaucoup, Rachel Chalita.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de ce deuxième roman, L'ours qui cache la forêt, qui a été traduit de l'hébreu par Gilles Rosier, l'éditeur de la maison L'Antilope.
Merci beaucoup.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.